On va commencer ensemble par un mot de prière. C'est bon? Éternel notre Dieu, merci pour ce temps qu'on peut prendre maintenant à regarder à ce que Christ a fait pour nous, Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te bénir pour ton évangile, te bénir pour la grâce que je trouve en toi, Seigneur. Encore une fois, je contemplais ton œuvre, ton amour, ta patience, ta bonté, Seigneur, pour faire un acte d'amour aussi grand que celui-là. Seigneur, ce qui me touche le plus, ce n'est pas que tu aies fait cela, c'est que je sois l'objet de cet amour. Et je te bénis, Seigneur, parce que je veux toujours être émerveillé de ce que tu m'as aimé moi ainsi, au point de venir mourir sur cette croix pour moi, au point de vivre cette vie ici-bas, Seigneur. Je prie, Père, de bénir ce temps qu'on prend dans ta parole, éclaire nos pensées, aide-nous à saisir ces choses et qu'elles viennent, Seigneur, changer notre adoration, notre vie, notre quotidien, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. OK, alors, les deux dernières semaines, on a vu ensemble la personne de Christ. La semaine prochaine, on va voir ensemble l'Esprit-Saint. Et puis, bon, on ne le verra pas, il est invisible, mais on va parler de lui. Et puis, cette semaine, l'œuvre de Christ. On voit surtout un volet de l'œuvre de Christ, c'est-à-dire l'expiation, un peu la résurrection. On ne va pas dans tous les aspects de l'expiation, d'accord? Ça veut dire qu'on ne va pas dans toutes les notions de justification, tout ça. Ce serait trop de matière pour un seul cours comme celui-là. Une définition de l'expiation. L'expiation est l'œuvre que le Christ a accomplie pendant sa vie et dans sa mort pour acquérir notre salut. Première chose à noter, c'est que la cause première de l'œuvre que Christ a accomplie, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Okay? On peut être tenté, c'est ce que je mentionnais dans ma prière, on peut être tenté de se dire que nous sommes la cause, puisqu'on a péché, Dieu est venu vers nous. La cause première de l'œuvre que Christ a accomplie, c'est la personne de Dieu, ce qu'il est comme personne, ce qu'il est en lui-même. Je m'explique. Dieu est justice, dans le deuxième petit paragraphe. Dieu est justice et il est amour, et c'est en raison de sa justice et de son amour que Christ est venu donner sa vie en sacrifice. Jean 3,16, évidemment, on voit le motif de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier motif de l'intervention de Dieu en apportant le salut aux hommes, c'est le fait que Dieu est amour. C'est ce qu'il est lui-même comme personne. Ce n'est pas tourné premièrement vers nous. Okay? C'est pas l'être humain est une créature tellement extraordinaire, tellement merveilleuse, je n'ai pas le choix, je serais vraiment cheap si je n'allais pas vers eux. Non, c'est premièrement Dieu qui il est comme personne. Maintenant, je veux dire, notre réflexe à nous naturel, avant de connaître Dieu, avant de connaître Christ, avant de connaître la parole de Dieu, c'est d'être centré sur nous-mêmes. Et ce qui fait que tant de personnes ont un sentiment de révolte à l'égard de Dieu lorsqu'on leur parle de l'Évangile, pour plusieurs, ça a une odeur de mort. Mais c'est justement, c'est que le centre de l'univers, hein, ils sont restés avant Galilée, le centre de l'univers, c'est l'homme. C'est pas Dieu. D'accord? Non, le centre de l'univers, c'est Dieu. Le centre de la création, c'est Dieu. Et c'est ce qu'il y avait en Dieu qui amenait cette œuvre-là. Dieu est amour. Juste en dessous du verset Jean 3,16, en effet, le motif premier du salut est l'amour de Dieu. Autrement, Dieu n'avait pas à intervenir et aurait manifesté toute sa sainteté et sa droiture sans pourvoir à aucun moyen de salut pour les hommes. Dieu aurait été Dieu, aurait été égal à lui-même. Il aurait été saint, juste et droit s'il n'avait pourvu à aucun moyen. J'en prends pour preuve ce qu'il a fait avec les anges. C'est quoi le moyen de rédemption pour les anges? Il n'y en a pas? Il n'y a aucun moyen de rédemption pour les anges. Est-ce que Dieu est injuste envers les anges? Est-ce que ça remet en question la sainteté de Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Pourtant, à mon avis, à moi, les anges sont des créatures assez extraordinaires. Fait que c'est ce que Dieu est lui-même, et c'est parce qu'il est amour qu'il a fait cette intervention-là. Il n'était pas tenu de le faire. Je m'excuse, je suis fatigué, je déparle. Cependant, la justice de Dieu est aussi au cœur de l'œuvre d'expiation. Et c'est par l'expiation que l'amour et la justice de Dieu sont à la fois manifestés. L'apôtre Paul expose ceci avec éloquence dans sa lettre aux Romains. Fait que Romains 3, 25, évidemment, « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin que soit montrée sa justice. » Jean 3, 16, le motif, c'est l'amour. « Par l'expiation, la justice de Dieu est manifestée. Son amour est satisfait aussi. » Est satisfait aussi. La nécessité de l'expiation. Ça, c'est une question importante. Est-ce que Dieu aurait pu prendre un autre moyen? Avant de lire les notes, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Est-ce que Dieu aurait pu prendre un autre moyen que le sacrifice de Christ? Qu'est-ce que vous répondez à cette question-là? Oui, non, pourquoi? Un autre moyen que son Fils mort sur la croix pour notre salut. Est-ce que Dieu aurait pu prendre un autre moyen que celui-là pour notre salut? Oui, non, pourquoi? Lui est juste, puis nous, on n'est pas juste.
On n'est pas juste, on est des pécheurs. Puis lui, il est purifié, puis il est juste, son fils.
Son fils pouvait s'offrir en sacrifice. Maintenant, est-ce qu'il y aurait eu un autre moyen? Oui, Louise.
De nous créer comme des robots incapables de désobéir et de choisir librement. Donc, obéissant, juste, parfait, dès la création, il n'en aurait pas chuté.
Oui, c'est ça, dans une autre... Exactement. Si son plan original avait été différent. La réponse, c'est non. D'accord? Oui, Sylvain.
Ben, en fait, connaître Dieu, c'est à cause de la croix. Mm-hmm. S'il ne serait pas venu, on n'aurait pas pu le croire. On n'aurait pas pu le connaître. Puis être sauvé, puis avoir le salut, c'est de le rencontrer puis le connaître. Il fallait qu'il vienne lui-même. À mon sens, à moi, il n'y en avait pas d'autre moyen.
Dans le sens, ce que tu dis, c'est qu'il y a un aspect de la personne de Dieu qu'on n'aurait jamais pu connaître, définitivement. Yes. Oui, il faut, parce que c'est enregistré.
OK. En fait, pour avoir accès à Dieu, Dieu est saint. OK? Fait que le seul moyen que tu avais pour accéder à Dieu, tu peux pas avoir d'autre chose qu'un chemin qui soit saint. Sinon, qui prend n'importe quelle autre chose, il fallait que ça vienne de Dieu. Sans l'œuvre de Jésus-Christ, tu n'avais pas un moyen saint qui te donnait accès à Dieu. Mm-hmm. C'est ce que je pense.
OK, merci. C'est sûr qu'on peut y aller par la logique. C'est toutes des bonnes réponses. On peut y aller par la logique. Hein. Évidemment, s'il y avait un autre chemin, puisque Dieu fait tout à perfection, il l'aurait pris. Mais Dieu fait tout à perfection. Bon, ça, c'est juste de la logique, là.
Dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur Jésus a demandé...
Peux-tu juste le répéter?
Dans le jardin de Gethsémani, Jésus lui-même a demandé au Père, « Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non ma volonté, mais la tienne. » Donc, Jésus est toujours exaucé par Dieu. Et à ce moment-là, il a prié Dieu s'il y avait un autre moyen... Que ce moyen-là arrive et il n'est pas arrivé l'autre moyen. Donc, je pense que c'est clair qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Là.
C'est pour ça qu'il faut que vous lisiez votre Bible. C'est pour donner ces réponses-là. Merci, Camille. Alors, on continue. Comme nous l'avions vu, juste au haut de la page 4, je vais revenir sur ce que tu viens de dire, c'est pour ça. Comme nous l'avions vu dans la leçon sur le caractère de Dieu, il est utile de nous rappeler premièrement que Dieu n'était aucunement tenu d'intervenir pour nous sauver. La justice de Dieu aurait été premièrement entièrement satisfaite. Dieu n'aurait pas manifesté un manque d'amour, nous ayant déjà tout donné en nous créant. Alors Dieu n'avait pas à le faire, puisqu'il nous avait déjà tout donné, en nous créant, en nous donnant l'univers, en nous plaçant là. Mais effectivement, ce que Camille vient juste de soulever... Regardez le paragraphe suivant. Une fois que Dieu, dans sa grâce infinie, a résolu de sauver les hommes, il est clair à la lumière de la parole de Dieu qu'il n'y avait aucun autre moyen possible. S'il y en avait eu un autre, Christ l'aurait choisi. Et c'est clair dans Matthieu 26, 39. Fait qu'on peut le prendre de toutes sortes de manières. On peut le prendre par la logique. Dieu fait tout à perfection. Donc, mais en même temps, si on veut aller dans ce qui nous trouble le plus de ce moyen de salut-là, qui est le Père qui offre son Fils en sacrifice, est-ce que cette image qui est aussi violente, qui est sanglante, qui est dure, qui pourrait exprimer de la cruauté si on connaissait pas le motif de Dieu, est-ce que c'était nécessaire? Mais si je veux aller vraiment répondre au cœur de ça, je veux aller voir celui qui s'est offert en sacrifice, Jésus, et comment est-ce que lui a raisonné ça. Puis la conclusion du dialogue entre le Fils et le Père, c'est il n'y en a pas d'autre chemin. S'il y en avait eu un autre, le Père en aurait pris un autre, puis le Fils en aurait pris un autre. C'est lui qui passait par cette souffrance-là. Et lui était capable d'anticiper ce qui s'en venait justement dans le fait qu'il allait être maudit, qu'il allait être fait péché, dans cette séparation-là. Alors non, il n'y avait pas d'autre moyen. C'est pas seulement graphique. C'est pas seulement pour attirer notre attention. C'est pas seulement pour marquer l'imaginaire. Ce ne sont pas que des métaphores. Quand dans la théologie libérale, on va vouloir apporter tout ça à l'échelle de métaphore, du symbole que ça représente. Non, il y a un vrai être humain qui un jour a dû se poser la question, moi je m'en vais à la croix, et non seulement je suis homme, je suis Dieu, je suis en communion parfaite avec mon Père, et là il va y avoir un bris de communion. Là. Il y a quelque chose d'éternel qui va être brisé là, pendant un instant. Là. Et donc il y a une vraie personne qui n'était pas en train de vivre une métaphore, qui est en train de vivre une vraie malédiction, puis qui a dû se poser la question, est-ce qu'il y a un autre chemin que celui-là? Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour ça qu'il a accepté de le prendre. D'accord? Fait qu'on ne veut pas non plus tomber dans ces pensées-là plus libérales qui ont tendance à amener tout ça au niveau d'image. T'sais. Non, 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 c'est une vraie mort qui s'est passée là, et il n'y a pas d'autre chemin possible. Après sa résurrection, dans Luc 24, Jésus va dire aussi, comme nous donnant une perspective sur l'ensemble des Écritures, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses? » Non seulement pour que les prophéties s'accomplissent, mais parce que toute la révélation depuis la Genèse nous dit qu'un jour il va y avoir un salut possible sur la base d'un sacrifice. Il fallait que ça se passe comme ça. C'était conçu comme ça de toute éternité, et quand on découvre la croix, quand on découvre l'Évangile, puis on recommence à lire tout l'Ancien Testament à la lumière de ce que Christ a fait, on comprend que c'était la chose à faire. C'était la chose qui était dans les desseins de Dieu. C'était la chose à faire pour notre salut. Donc, ça devait se passer comme ça. Et ça, il faut que ce soit une conviction claire pour vous, parce que vous allez parler de l'Évangile à des gens, puis les personnes vont trouver que c'est comme... Tu sais, on prend le repas du Seigneur. Notre mémorial à nous, là, c'est du sang qui coule, puis une chair brisée. Ça, c'est notre mémorial. Puis pour les gens qui ne comprennent pas ces choses-là, c'est absolument de mauvais goût. Je l'ai déjà dit à quelques reprises, R.C. Sproul est en train de prêcher. Puis à une foule, je ne sais pas combien de milliers, je l'ai écouté raconter ça, puis il y a quelqu'un qui lui a coupé la parole pendant qu'il prêchait l'Évangile. Puis il a dit, that's so bloody, that's disgusting. La personne a crié, mais c'est dégueulasse ton message. Tu me dis que c'est une bonne nouvelle, mais c'est un gars brisé avec du sang qui coule. Tu sais. Mais en fait, ce monsieur-là est en train de refléter ce que plein de gens pensent lorsqu'on leur parle de l'Évangile, lorsqu'on parle de ce que Christ a fait. Parce que pour eux, ça se fait dans une pièce avec une belle nappe blanche, puis quelques colombes, des lys, et puis on signe un contrat de paix. C'est comme ça que ça se passe, la paix. Ça ne se passe pas avec un sacrifice. C'est pas vrai, il y a aucune paix face à la violence, face au péché qui s'est acquise comme ça. Non, non, on a rétabli la paix en 1945 au prix d'énormément de sang. Mais là, on parle de faire la paix avec Dieu. Là. Alors, il n'y en a pas d'autre chemin. Et ça, il faut que ce soit une conviction dans votre cœur. Il faut que ce soit clair que s'il y avait eu un autre moyen, Christ l'aurait pris. Parce que les gens à qui vous allez parler vont être scandalisés par votre message, puis ils vont réagir, puis là, vous êtes là et dire, c'est vrai que c'est rough, c'est rough à passer comme message. C'est simplement parce qu'on ne mesure pas qui est Dieu, qui nous sommes et la nécessité de ce sacrifice-là. C'est une mauvaise compréhension de la personne de Dieu, de sa sainteté. On est tellement étranger à qui est Dieu et on est tellement inconscient, on est tellement propre juste. Jamais on se pense aussi crasse que ça. On pense que la transaction entre Dieu et nous, ça pourrait se faire avec une belle grande table, des diplomates en cravate. Vous comprenez ce que je veux dire, la petite scène? Puis on signe un traité de paix avec Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous aide à son tour à saisir l'importance au milieu de la page 4 de l'incarnation et du sacrifice comme moyen d'expiation pour nos péchés. Dans Hébreux 2:17, on lit « Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Alors, son incarnation, sa crucifixion sont nécessaires à notre salut parce que c'est notre place qu'il vient prendre. Il s'en vient sauver de vrais hommes, ça prenne un vrai sacrifice. Il n'y avait pas d'autre voie que celle-là. La nature de l'expiation. Un volet intéressant que Grudem apporte, puis honnêtement, je ne pense pas même avoir déjà prêché là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent abordé. Quand on pense à l'expiation, on pense à la croix, on pense à la souffrance, mais on a tendance à négliger aussi la vie parfaite qui a été menée avant. Puis lorsqu'on pense à la vie parfaite de Christ, on a tendance à le voir essentiellement comme une qualification pour le sacrifice. C'est comme s'il fallait qu'il fasse au moins un 30 ans sans faute pour avoir le droit de se faire crucifier. Tu sais, no strike, t'es juste, c'est bon, tu peux y aller. Bon, c'est comme ça qu'on a tendance à voir ce que ça apporte dans notre salut. Fait qu'on voit les 30 premières années ou les 3 années de son ministère public comme, OK, là, dans le fond, c'est parce qu'après, il fallait qu'on marche comme lui. Fait, ça y a pris 3 ans pour nous en enseigner assez, que les gars qui étaient avec lui puissent prendre des notes, que le Saint-Esprit puisse s'en rappeler. Là, on a l'instruction, on a l'enseignement. Et donc, cette vie-là servait à nous dispenser de l'enseignement puis servait à se qualifier pour le sacrifice. Je pense naturellement, c'est comme ça qu'on a tendance à le voir. C'est pas vrai. Le bébé aurait pu être sacrifié à la naissance. Il était saint. Ça aurait pu se faire le lendemain de la naissance. Pas selon Hébreu. Pas selon Hébreu. Mais c'est parce qu'il y a un autre aspect dans ça. C'est que Christ a vécu une vie d'obéissance afin que sa justice aussi nous soit imputée. Sa vie parfaite aussi nous soit imputée. On ne va pas entrer au ciel sur la base de notre vie parfaite à nous. On va entrer au ciel sur la base de la vie parfaite de Christ. On va voir juste quelques passages. D'accord? Nous comprenons aisément que le Christ est dû offrir, je m'excuse, j'ai une petite faute ici, est dû offrir sa vie en sacrifice pour nous offrir le salut. Mais nous réalisons peut-être moins l'importance de la vie parfaite qu'il a menée, non seulement comme le qualifiant pour le sacrifice, mais comme moyen nécessaire à ce que nous puissions obtenir la justice. En effet, son sacrifice aurait suffi à ce que nous soyons pardonnés, mais c'est sa vie d'obéissance parfaite qui nous qualifie pour entrer au ciel. Sa vie nous est imputée, on est caché en Jésus-Christ. On va voir plus loin qu'il est pour nous pas seulement justification, il est sanctification, il est sagesse. Dans Romains 5, 19, « Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Ce qui nous est imputé, ce n'est pas juste le sacrifice de Christ, c'est sa vie parfaite. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1:30. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » C'est non seulement son sacrifice qu'il a fait, mais sa droiture aussi, on est caché en lui. Et lorsqu'on va se présenter devant Dieu, ça ne sera pas en vertu de la bonne vie que j'ai menée après son sacrifice. C'est tout simplement parce que je suis caché en lui. Les souffrances du Christ. Il a souffert évidemment tout au long de sa vie. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. On a tendance à s'arrêter juste à la croix. Maintenant, on va lire tout de suite Ésaïe 53:3. Ça dit « Homme de douleur et habitué à la souffrance ». Ésaïe 53:3 présume que Jésus a souffert tout au long de sa vie. Là. C'est un homme qui était habitué à la souffrance. Ce n'est pas juste les 24 dernières heures, tu sais, ou les 48 dernières heures, l'anticipation, tout ça, qui était comme, c'est juste là que ça se passe. C'est un homme qui était habitué à la souffrance. Premièrement, il était habitué à la souffrance humaine. Comme Hébreu nous le rappelle, il peut s'identifier avec ce que nous, on a vécu. Mais il a vécu aussi le fait d'être rejeté. Dès qu'il a pris la parole, dès qu'il a commencé son ministère public, il a été rejeté, il a été méprisé, lui qui était le Fils de Dieu, lui qui possédait la vérité. Il a vécu des souffrances que nous vivons aussi, comme probablement la perte de son père adoptif, Joseph. Donc, Christ, par son incarnation, est venu vivre avec nous la réalité de la vie humaine, la réalité des souffrances humaines, la réalité de perdre un ami, de traverser des deuils, la réalité d'être rejeté par ta famille. Ce n'est pas juste les 24 dernières heures qui ont été douleurs pour lui. Oui. Juste y aller dans le micro, s'il te plaît.
quand il s'exclame, il dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je? » Il y a aussi l'aspect, le fait qu'il était Dieu, il vivait parmi les pécheurs. Ça a dû être une souffrance que nous, on ne connaît pas nécessairement, on ne peut pas comprendre. Là. Mais c'est certain qu'en tant que Dieu, parmi les pécheurs, il a souffert quelque chose. Puis de supporter le péché, ça a été quand même une épreuve.
Oui, mais quand Ésaïe parle de sa souffrance comme homme, la souffrance dont toi tu parles, Dieu l'avait même avant. Puis au contraire, lorsque Jésus est en train de dire, par exemple sur Jérusalem, 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 combien de fois j'ai voulu, il est en train de faire appel à son éternité. Tu comprends? Fait que ça, c'est une souffrance que Dieu porte en lui-même depuis la chute de l'homme. De cette tristesse-là de voir l'homme qui est rebelle. J'ai marqué la douleur de la croix, mais on aurait pu dire plus justement les douleurs de la croix. D'accord? Parce qu'il y a différentes facettes à ce que Christ a vécu autour de la croix. Évidemment, il y a les douleurs physiques. Pour plusieurs d'entre vous, ce que je vais lire, c'est du connu. Si vous avez lu des choses comme Josh McDowell ou des fois vous avez entendu les prédicateurs faire référence à ça, ce que ça représente, la crucifixion comme souffrance. Mais je me suis dit que certains d'entre vous ont peut-être absolument jamais lu là-dessus. Alors, je vais quand même juste vous lire ces deux paragraphes-là. Ça, c'est tiré directement de Grudem. De nombreux lecteurs des évangiles dans le monde antique avaient assisté à des crucifixions et se représentaient très précisément les souffrances que Jésus avait endurées quand ils lisaient qu'il avait été crucifié. D'accord? Pour eux, ils avaient déjà vu ça, des scènes de crucifixion. Un criminel qui était crucifié subissait une mort très lente par suffocation. Quand les bras du criminel étaient étendus et cloués à la croix, ce sont eux qui devaient supporter la plus grande partie du poids du corps. La poitrine était repoussée vers le haut et vers l'extérieur, ce qui rendait la respiration très difficile. Mais quand le besoin de respirer devenait irrésistible, la victime devait pousser sur ses pieds pour aider ses bras à supporter le poids du corps et permettre à sa poitrine de se contracter plus facilement. En se hissant de la sorte, le criminel échappait à la suffocation, mais c'était extrêmement douloureux parce que cela demandait de mettre le poids du corps sur les clous qui tenaient les pieds. De plier les coudes et de tirer sur les clous qui traversaient les poignets. Le dos du criminel écorché, je trouve que c'est faible, écorché comme terme, là. Mais on dit écorché vif, fait que c'est dans le sens littéral du terme, d'accord? Écorché par la flagellation, frottait contre la croix à chaque respiration. Ainsi, Sénèque, qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, parlant d'un homme crucifié, demande « Qui veut prolonger une existence qui prolongera tant de tortures? » En voulant dire « Quand tu es crucifié, tu veux juste comme... Soyez gracieux, cassez les deux jambes, qu'on en finisse, qu'il ne puisse plus respirer. » Une autre citation, un médecin écrivant dans le Journal of the American Medical Association en 1986 a expliqué la douleur ressentie par le crucifié. « Pour expirer correctement, il fallait soulever le corps en poussant sur les pieds et en fléchissant les coudes. Cependant, cette manœuvre mettait tout le poids du corps sur les pieds et produisait une douleur atroce. » De plus, la flexion des coudes provoquait la rotation des poignets autour des clous et une douleur fulgurante le long des nerfs médians endommagés. Des crampes et des fourmillements dans les bras ajoutaient à l'inconfort. À cause de cela, chaque effort respiratoire était douloureusement épuisant et conduisait finalement à l'asphyxie. À un moment donné, le supplicié il abandonnait. Il n'avait plus d'énergie. Il mourait par asphyxie, même si son corps avait voulu de l'oxygène. En tout cas, ce n'était pas pour être cru que je vous le partage, parce que je sais que ce n'est peut-être pas tout le monde qui a lu ça. Ça, c'est les souffrances physiques associées à la croix. Maintenant, il y a la douleur de porter le péché. Et là, on rentre un petit peu dans ce que Camille, tu sais, lorsqu'on réalise le fait que Christ est Dieu, et que là, il y a une dimension que nous, on ne peut pas suivre dans ces souffrances, la douleur de porter le péché. J'aime ce que Grudem fait. Grudem, pour nous aider à comprendre, rapidement, on va avoir tendance à dire, nous, on ne peut pas comprendre ce que Christ a vécu, c'est vrai. Mais en même temps, si nous sommes tous chrétiens ici, là, nous avons tous vécu l'aliénation que crée le péché dans le cœur de l'homme. Lorsqu'à un certain moment donné, la culpabilité puis la conscience de ton péché t'amène à te sentir complètement seul. Tu te sens abandonné, détaché. Madame Paradis demandait l'aliénation, c'est tu n'as plus de lien avec personne, tu n'es plus en relation avec personne. Il y a certains des péchés qu'on a commis dans notre vie qui font qu'on a tellement honte qu'on voudrait juste comme disparaître. Tu ne veux pas que ce soit mis en lumière devant personne. Tu ne veux pas que personne voit ça. Tu es dans un moment d'angoisse où tu voudrais juste comme soit qu'on l'efface ou soit qu'on t'efface. Tu sais. Et donc, il y a un sentiment d'isolement complet qui est là. Probablement que vous avez tous vécu ça. Je l'ai vécu personnellement à quelques reprises. Ça, c'est une piste pour essayer de comprendre ce que Christ a pu vivre là, à ce moment-là. Parce que cet isolement-là que nous vivons dans notre cœur, c'est un isolement par rapport à nos pères, P.E.I.R., qui sont tous des pécheurs comme nous. Lui va le vivre et lui l'a vécu en relation avec son Père céleste, avec qui il y avait une communion parfaite et éternelle. D'accord? Alors, c'est en rien comparable, mais ça nous donne une piste pour méditer puis pour apprécier ce que Christ a fait pour nous. Quand moi, je pêche, puis je pêche d'un péché qui me fait tellement honte que je voudrais juste comme disparaître, puis je ne me sens plus connecté avec aucun être humain parce que je ne voudrais pas avoir à porter ça dans une relation que les personnes sachent ça. C'est une piste pour nous pour méditer sur ce que Christ lui-même a vécu à ce moment-là. Pourtant, le Christ, au milieu du paragraphe, a vécu cela en partant d'une expérience de sainteté absolue que nous ne connaissons pas. La parole de Dieu nous dit qu'il a été fait péché pour nous et qu'il a été fait malédiction pour nous. Donc, le paradoxe, c'est que Christ devait vivre en lui-même des sentiments contradictoires du genre honte. Imaginez un instant Dieu qui est fait péché. Tout d'un coup, Dieu, je vais le dire comme ça, là, mais ce n'est pas le bon terme, d'accord? Tout d'un coup, Dieu est pécheur. Ce n'est pas vrai, il n'a pas péché. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Dans son identité, il est fait péché, là. Vous avez un être qui n'a jamais eu à avoir honte et à rougir de rien de ce qu'il a fait. Et tout d'un coup, il est péché. Fait que le genre de sentiments qui ont dû envahir son âme, ça devait être atroce. Oui. Mais notre péché lui a été imputé. Fait qu'il y a une transaction réelle entre Dieu et lui. C'est pas juste, c'est pas seulement la honte d'être devant les hommes. C'est le fait d'être véritablement maudit par Dieu. OK, il y a des gens qui débattent. Par exemple, j'ai eu un débat une fois avec un pasteur. Ça faisait 2 ans que j'étais chrétien. Ça faisait 20 ans qu'il l'était sûrement. Puis il me disait, quand Jésus a crié, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lui, il me disait, Dieu ne l'a pas vraiment abandonné. Dieu ne peut pas être séparé de lui-même. C'est pas vrai, ça, ce qui s'est passé là. C'est son sentiment qu'il vivait. Ce n'était pas un vrai abandon. Fait que moi, ma réponse était, donc, ce n'est pas un vrai salut. Ce n'est pas une vraie transaction. Ce n'est pas une vraie justification. Fait que j'étais un peu troublé, évidemment, d'entendre ça de la bouche d'un pasteur. Fait que je continuais à faire mes études. J'ai réalisé qu'il était assez isolé dans son raisonnement. Mais il y en a. Il y en a qui vont dire ça, d'accord? Ma conviction très claire à la lumière des Écritures, c'est qu'il a été véritablement maudit. C'est pas une mise en scène, cette affaire-là. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais mentionner? C'est bon? L'abandon. Alors oui, je crois aussi qu'il a été véritablement abandonné. L'abandon que Christ a vécu de la part du Père en ce moment, au moment où il a été maudit à notre place, implique une souffrance que nous ne saisirons vraiment. Et encore là, je trouve ça intéressant, seulement lorsqu'on va être dans la présence de Dieu. Alors, on ne vit pas une communion avec le Père comme Christ en vit une, puis comme il en vivait de toute éternité. Mais un jour, on va voir une échelle de mesure lorsqu'on va entrer dans sa présence. Puis là, on va être rempli de la présence de Dieu. Puis là, on va dire, ah, c'est ça que j'avais jamais eu avant. C'est ça que je n'avais pas encore. Lui, il a vécu à l'inverse. D'accord? Parce qu'il était dans la présence du Père. Puis il a été abandonné par son Père. D'accord? Mais même si on ne le vivra jamais comme ça, un jour, lorsqu'on va entrer dans sa présence, et je pense que c'est pour ça que l'agneau est tellement adoré dans l'Apocalypse, on va dire, oh, regarde ce que tu nous as acquis. On ne le mesurait même pas encore lorsqu'on était sur la terre. On n'avait pas savouré ça. Donc, une autre des souffrances de la croix, c'est l'abandon. Et enfin, une dernière souffrance, c'est la colère. Je comprends que c'est toutes des facettes d'une même réalité. Mais comprendre ces choses-là, c'est comprendre notre salut, c'est adorer mieux. Évidemment, Christ a subi la colère de Dieu, ce qui était inconcevable, c'est un être parfait. Mais il a subi la colère de Dieu. Il a été placé sous la juste et sainte colère de Dieu. C'est comme ça qu'il est victime propitiatoire. Que Dieu nous ait rendu propice, c'est parce que lui l'a reçu, cette colère-là. Vous avez ici un passage à mémoriser ou à méditer. Est-ce que vous avez des questions sur l'expiation avant qu'on passe à la résurrection? Oui, Sylvain, juste un instant. Ça va bien, j'ai le temps pour quelques questions.
OK, ben c'est juste quelque chose que j'aimerais dire par rapport à la séparation de son père, là. Quand il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Moi, je le prends comme il était obligé de marcher par la foi, là, pour dire ça. Dans le sens, c'était tellement noir, c'était tellement... Il voyait plus, puis il voyait plus Dieu, son père. Là. Mais, par la foi, moi, je dis, je le comprends par ça. Il a dit « mon Dieu, encore. Mm-hmm. » Puis moi, de mon côté, quand moi, je vois des choses difficiles, je peux faire ça. Parce que je le sais en arrière, parce qu'on l'a connu, parce que je l'ai connu. Mais ça, c'est un poussant encouragement, tu comprends?
Ça, c'est une excellente piste de méditation. Grudem l'a relevé, puis je ne l'ai pas mis dans le texte, mais au moment où il s'écrit que Dieu l'a abandonné, il est encore en train de l'appeler mon Dieu. Donc, même si... C'est excellent, Sylvain, merci. Même si moi, je vais vivre des moments où j'ai ce sentiment d'abandon-là, comme Christ, je peux continuer à dire mon Dieu. Je ne le vois pas, mais c'est encore mon Dieu. Intéressant. Autre chose? C'est bon? Son œuvre, la résurrection. À quoi ressemblait le corps de résurrection du Christ? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Bien, évidemment, le témoignage des Écritures est clair. Je n'ai pas mis plein de références, mais on aurait pu prendre la fin de chacun des évangiles. On peut aller dans les Actes, on peut aller dans différents passages. Le témoignage du Nouveau Testament est très, très clair. Il s'agit d'une résurrection, d'une vraie résurrection. Et tout évangile qui vous est présenté, qui va dire le contraire de ça, que ce serait une espèce de résurrection spirituelle seulement, où il n'y aurait pas un vrai corps, qu'il soit maudit. C'est ça que Paul dit. Hein? Qu'il soit anathème. C'est un faux évangile. Et on n'a pas à jouer avec ça. Le témoignage du Nouveau Testament est super clair. Christ est ressuscité d'entre les morts. Le témoignage de l'Apocalypse aussi. C'est quoi la nature de la résurrection du Christ? Le Christ est ressuscité dans un corps physique, réel, que les disciples ont touché, qui a été nourri. Puis en même temps, il n'y avait pas un corps identique au nôtre. D'accord? Il n'était pas identique puisqu'il y avait un corps glorifié. Il y avait quelque chose de différent qui était là. Mais c'était un corps réel. Comme on va le voir ensemble, c'est la prémisse de notre résurrection à nous. Par exemple, le deuxième petit paragraphe, la résurrection du Christ diffère de la résurrection de Lazare. On est capable de le concevoir. Lazare est ressuscité pécheur. Lazare est ressuscité avec un corps corruptible. Lazare est ressuscité avec un corps qui allait mourir d'une mort naturelle. Christ est ressuscité avec un corps qui n'allait pas mourir parce que, selon sa nature, il n'allait plus mourir. Nos corps à nous, par nature maintenant, puisqu'on est pécheur, sont destinés à la mort. Lorsque Christ est ressuscité, son corps n'était pas destiné à vieillir, à mourir. Il est ressuscité avec un corps différent à la fois. 1 Corinthiens 15, 42, 44, qui nous parle de ce corps incorruptible. L'importance doctrinale de la résurrection. Si la crucifixion est centrale dans l'œuvre de rédemption accomplie par Christ, sa résurrection est tout aussi importante. C'est vraiment deux facettes de l'œuvre de Christ. Et c'est vrai qu'on a tendance à se centrer sur la croix, parce que c'est là qu'on trouve le pardon. Mais sans la résurrection, il n'y en a pas de salut. D'accord? On va voir différentes manières ensemble qu'on voit que Dieu, que la résurrection était nécessaire à notre salut. Premièrement, c'est par sa résurrection que Christ nous assure la régénération. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait me dire dans vos mots c'est quoi la régénération? C'est un bras qui veut se mouiller. Personne? Oui? Oui, Gérard. Juste un instant. Oui, oui. Pas besoin d'une réponse parfaite.
La régénération, c'est recevoir un cœur de chair. Dieu qui enlève le cœur de pierre, qui donne un cœur de chair, qui vient habiter dans ce cœur-là et qui scelle le cœur pour la vie éternelle. Et c'est un cœur que l'ennemi ne pourra plus jamais attaquer. Et il n'y a plus rien qui va pouvoir y entrer et y sortir parce qu'il est scellé pour la vie éternelle. Voilà la régénération okay. Et qui nous permet de renouveler notre intelligence.
Oui.
Aux pensées de Dieu.
OK, merci. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a pas de que l'ennemi ne va pas venir nous tenter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus pécheur. On demeure pécheur jusqu'à la fin. On a un processus de sanctification. Mais ce sont les promesses des prophètes qui s'accomplissent. On a ce cœur nouveau qui nous est donné, cette vie spirituelle nouvelle qui est en nous. Ça prend la foi pour le croire. Parce que je n'ai pas subi de chirurgie physique au moment où je suis né de nouveau. Par contre, je le vois dans ma vie, je le constate, je vois le fruit de l'esprit dans ma vie. Quelqu'un d'autre qui veut mentionner de quoi sur la régénération? Oui, c'est vrai. Pardon? C'est une nouvelle création? Oui. C'est ça. Alors, les images qu'on a pour en parler, la nouvelle naissance, la nouvelle création, ça, c'est deux images. Est-ce qu'il y a d'autres images auxquelles je ne pense pas? La circoncision du cœur, oui, c'est vrai. C'est une autre image qui est utilisée. Oui, ça, je dirais que c'est un des fruits à être transformé par le renouvellement de notre intelligence. On a une nouvelle création. Je pense que c'est pas mal ça, les images qu'on a. Le cœur nouveau, là, c'est une image qui est donnée. Vieil homme, nouvel homme. Ce sont des images pour définir ce qui se passe avec, pour nous aider à saisir ce qui se passe avec la régénération. Mais cette régénération-là n'est possible que parce que Christ est ressuscité. D'accord? Avec sa mort, il se sacrifie. Il paye le tribut, il paye le prix de notre faute, de nos péchés. Par sa résurrection, la vie nouvelle nous est offerte. D'accord? 1 Pierre 1:3. Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel est réservé dans les cieux. Alors, c'est par la résurrection d'entre les morts que nous avons cette espérance vivante et que nous avons été régénérés. C'était un aspect essentiel, oui. C'est la vraie reconstruction qui est commencée puis qui va se terminer lorsqu'on va être dans la gloire auprès de lui, exactement. C'est un des aspects dans Néhémie. Je ne sais pas si je vais prendre le temps de l'exprimer clairement dans la série, mais Néhémie, c'est l'espoir qui ne s'accomplit qu'en Christ. Parce que dans un sens... Pour crever comme toute ma série, Néhémie, c'est une reconstruction frustrée. Parce que tu arrives à la fin de Néhémie, puis tu te dis, « Boy, on va-tu y arriver, les boys? » Ils sont encore en train de pécher, les gars, tu sais. Mais tu n'as pas le choix. Tu t'en vas vers les prophètes, puis là, tu dis, « Oui, mais c'est parce que c'est juste en attendant cette affaire-là. » On attend une vraie réforme spirituelle, une vraie reconstruction, c'est bon. C'est par sa résurrection que Christ nous a acquis cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance. Éphésiens 2, 5 et 6. Nous qui étions morts par nos offenses, il me semble qu'il me manque un mot, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Notre résurrection corporelle, nous l'attendons, mais nous sommes déjà ressuscités en Christ. Autrement, il n'y aurait pas de vie nouvelle. D'accord? Nous serions des gens morts dans leurs péchés avec une promesse de salut à venir. Moi, je n'ai pas une promesse de salut à venir. J'ai une promesse de résurrection à venir, mais je suis déjà sauvé. D'accord? Donc, cette résurrection-là a déjà eu lieu. Je suis déjà ressuscité. Même si c'est intangible, ça devient tangible lorsque j'ouvre les Écritures. Ça devient tangible lorsque j'ouvre les Écritures avec quelqu'un d'autre et qui me dit, « Oui, mais c'est, excusez-moi le terme, là, c'est dégueulasse ton message. C'est saignant, c'est violent. Non, c'est vie mon message. Mais toi, t'es mort. Fait que j'ai beau t'apporter une parole de vie, ça tombe dans une terre, ça ne peut pas pousser. » L'esprit n'est pas là, il n'y a pas le cœur pour recevoir ça. Ça devient tangible lorsque je lis les Écritures, puis à un certain moment donné, Dieu me confond avec un péché. Puis là, j'entends l'Esprit qui parle à mon cœur, puis il dit, Yannick, c'est pas ça ton appel, Yannick, c'est pas ça la vie que je veux pour toi. Puis là, tu rentres dans cette vie-là, puis tu as de la joie. Philippe, juste le dire en micro, s'il te plaît.
C'est un des aspects que ceux à qui on parle de l'Évangile, lorsqu'on se convertit, ils nous voient aller, puis ils nous disent, ah, tu as changé de religion. Puis on essaye de lui expliquer ce qui se passe à l'intérieur. La régénération, bien, c'est comme quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre tant que ça ne se passe pas dans leur propre cœur. C'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir saisir les paroles. C'est comme un langage fou pour eux autres. C'est comme juste, c'est du vent, tu sais, ils ne comprennent pas.
Oui, puis quand vous assistez au moment où le Saint-Esprit commence à travailler, des fois ça se passe en 3 minutes, des fois ça se passe en 6 mois, mais on le voit. Tu es en train de parler avec la personne, puis tu dis, Seigneur, tu as commencé à ouvrir quelque chose, là. Des fois, c'est progressif, des fois, c'est instantané, mais tu le vois dans l'intelligence de la personne, son appréciation de ce que Christ a fait devient complètement différente. Oui? 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 Si on est assis avec lui? Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y avec... juste pour que j'essaie d'expliquer ou de répondre.
Ben, mes convictions, c'est ça. C'est que si on est régénéré et on est assis dans les lieux célestes, ça veut dire qu'on est présent dans les lieux célestes. On sait ce qui se passe. Puis je crois fermement que c'est la conscience de la gloire de Christ qu'on a, qui fait qu'on sait qu'on est assis là. Je ne sais pas si ça s'explique, mais... Je ne sais pas comment le dire autrement, là.
Ouais, ouais.
Mais c'est d'être conscient de qui est Christ. Si je sais que qui est Christ, je sais qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes. C'est sa gloire. T'sais.
Si je peux le résumer en termes concrets, est-ce que je reflète bien ta pensée si je dis lorsqu'on lit les Écritures, le fait qu'on est fasciné, le fait qu'on comprend ces choses, le fait qu'on voit ça, le fait qu'on attende ça, c'est ce que ça produit en nous. C'est ça? OK. Parce que ça reste mystérieux, hein? Ça reste mystérieux. Quand Paul nous dit qu'on est assis dans les lieux célestes en Christ, il ne parle pas d'un voyage transcendantal. Mais je pense, il parle de relation, mais il y a le fait que notre représentant Christ, lui est là. Fait que probablement qu'un des fruits concrets de ça, c'est notre vision des Écritures, l'Esprit qui nous parle, puis cette appréciation-là qu'on a des choses à venir. Mais ça reste quand même une part de mystère, on s'entend? Je pense que ça va être un petit peu plus clair à l'autre bord. Oui.
Il y a un facteur qu'il faut qu'on comprenne, c'est que lorsqu'on est venu au Seigneur, moi j'avais 20 ans, Satan a travaillé longtemps pour m'enseigner les rudiments du monde, dans mon intelligence. Mm-hmm. Et lorsqu'on vient à Dieu, on ne comprend pas le royaume de Dieu du jour au lendemain, c'est Dieu qui nous les révèle en marchant par le Saint-Esprit, en ouvrant les Écritures. Donc, il y a une compréhension graduelle dans notre intelligence aux choses de Dieu. Alors, quand il dit qu'on est assis à la droite du Père, en Jésus-Christ, Dieu n'attend que cela, nous révéler comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne pour que nous puissions cesser, débarrasser du vieil homme, dépouillons-nous du vieil homme et revêtons Christ. Et graduellement, je crois que c'est la maturité que Dieu nous appelle à avoir. Mm-hmm. À comprendre les choses célestes et à les appliquer ici sur la terre, qui devient une folie pour l'homme qui n'est pas régénéré. Et c'est là qu'il n'est pas facile à expliquer. C'est pour ça qu'on doit être dans la prière, demander la sagesse à Dieu de nous conduire pour révéler ces choses-là, pour que les cœurs s'ouvrent et naissent de nouveau.
Je pense aussi que quand Pierre et Paul nous disent que Dieu nous transforme à travers les épreuves qui surviennent dans notre vie, puis qu'on doit plonger les regards dans la parole, puis qu'on doit étudier ces choses-là, puis qu'on doit consacrer du temps à la prière. Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, puis moi, à des moments dans ma vie aussi, lorsqu'une épreuve arrive dans ma vie, Christ veut faire mourir certaines choses en moi. Puis si je me braque, puis je refuse d'accueillir cette épreuve-là pour ce qu'elle doit m'enseigner, bien, c'est des moments où je vais manquer des opportunités de croissance pour saisir mieux les choses de la vie, saisir mieux les choses de l'éternité, saisir mieux qui est Christ puis qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Quand on est dans l'épreuve, on fixe les yeux juste sur l'épreuve qui est devant nous. Puis là, on a tendance à se dire, c'est comme une écharde, hein? Ça fait mal. La seule affaire que tu veux faire, c'est l'enlever. T'sais. Mais il y a des épreuves qui arrivent, tu ne peux pas les enlever. Fait que, soit que tu décides de les vivre en murmurant tout le long, ou soit que tu décides d'accueillir cette épreuve-là puis dire, qu'est-ce que tu veux me révéler de toi, Christ? Où est-ce que tu veux me conduire? Là? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers ça? Comment est-ce que tu veux que je réagisse à travers ça? Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux? Allez visiter un hôpital, allez visiter quelqu'un à l'hôpital. Moi, j'ai travaillé dans les centres d'accueil avec les personnes âgées. Il y a des gens qui vivent la perte d'autonomie en bougonnant jusqu'à la fin, puis il y en a d'autres qui le vivent en s'adaptant jusqu'à la fin. Chrétien, non chrétien, là. D'accord? Puis c'est la différence entre une espèce de pissenlit qui n'arrête pas de chialer puis une fleur qui est en train de s'épanouir à travers les souffrances. Fait que les épreuves de la vie, passer du temps dans les Écritures pour méditer la parole. Cette semaine, on était avec Ken Hughes à la pastorale. C'est lui qui enseignait, le conférencier sur la famille en fin de semaine. Nous, on était là lundi, mardi, mercredi, puis c'était lui qui enseignait. Puis on est allé dans un texte avec Paul, puis wow, c'était génial. J'avais jamais saisi ça, puis je l'ai lu, ce texte-là. Mais de saisir ça, ça a changé mon appréciation de la croix. Ça a changé mon appréciation de mes limites à moi. Puis de voir comment Dieu veut me bénir à travers mes faiblesses puis mes limites. On était dans le passage où Paul parle de cette révélation qu'il a reçue, cette expérience qu'il a vécue d'être dans la présence de Dieu, puis il parle de ses faiblesses, puis tout ça, puis oh! Bon, mais ça me prenait ce temps-là dans la parole pour vivre ça. Après, je peux partir avec ça, puis je l'applique dans mon quotidien, puis je l'applique dans mes luttes, mes combats à moi. Puis ça, je pense que c'est l'œuvre de transformation que Christ est en train de faire en nous. Mais je peux me braquer, je peux être indiscipliné, je peux négliger ces moments-là. C'est pour ça que Paul parle de certains qui n'ont pas maturé. La lettre aux Hébreux aussi. Dans Philippiens 3:10, Paul dit « afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection ». Donc Paul, sur la terre, voulait saisir quelque chose de plus de Christ, saisir quelque chose de plus de sa résurrection dans son expérience avec Christ. Cette résurrection nous rend aptes à une vie nouvelle, à une marche nouvelle, à un nouveau service pour la gloire de Dieu. Dans Romains 6, verset 4, puis ensuite verset 11, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Cette marche-là, c'est maintenant. Alors Romains 6, c'est maintenant. C'est dans mon quotidien, c'est avant que j'aille dans la présence de Dieu. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. On est mort avec lui, on est ressuscité avec lui pour entrer dans une vie nouvelle maintenant. Donc, la résurrection de Christ nous garantit notre régénération. B, la résurrection de Christ nous garantit notre justification. Ce n'est pas juste sa mort qui nous garantit notre justification. En justification, on est déclaré juste, on est justifié. Il y a moins de versets là-dessus, mais quand même, il y en a. La résurrection de Christ est un gage de notre justification rendue possible par la foi en lui. En effet, en le ressuscitant d'entre les morts, le Père a approuvé son sacrifice. La résurrection, c'est le gage que le sacrifice était admissible. Romains 4, 25, « Et il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. » Sans la résurrection, Il n'y a pas d'approbation sur le sacrifice de Christ. La résurrection du Christ est la garantie que nous recevrons aussi un corps parfait de résurrection. Enfin, la résurrection de Christ devient pour nous la prémisse, c'est-à-dire il est le premier ressuscité. C'est le gage de notre résurrection à venir aussi, de notre propre résurrection. Sa résurrection parfaite annonce notre résurrection car nous serons semblables à lui en sa présence. 1 Corinthiens 6, 14, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » 2 Corinthiens 4, 14, « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec lui et nous fera paraître avec vous en sa présence. » Sa résurrection, c'est le gage que nous, un jour, on va ressusciter. Amen. Yes, Étienne.
Oui. Vas-y. sais, en tant qu'homme, sans la direction du Seigneur, on est là puis on tente dans le noir à essayer de combler le vide qui est là, qui semble peut-être ça va nous faire du bien, nous diriger, ouais. Mais on tente. Seigneur, on accepte le Seigneur dans nos vies, on demande pardon de nos péchés. Cette voile-là, il est enlevé. Puis il y a un phénomène qui se passe comme t'arrêtes de courir pour essayer de combler un besoin, mais t'as une direction pour laquelle tu as à combler. Puis c'est ta soif envers. Connaître ton Sauveur pour devenir, savoir vraiment t'es qui en Christ. Puis là, automatiquement, il y a un souhait qui se passe comme il y a un verset qui me vient à l'idée, c'est « Résister au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Il y a un switch qui se passe. Plus que tu t'approches du Seigneur, plus que la nouvelle créature prend place, parce que les autres affaires, tu y penses même pas pour les travailler, pour les éliminer. Ils passent dans l'oubli parce que tu es vraiment attiré dans la vérité, à marcher pour la justice. Il y a vraiment un switch qui se passe là. Mm-hmm. C'est vraiment phénoménal, je trouve.
Oui, puis c'est le cœur nouveau. C'est le cœur nouveau qui nous est donné. C'est ce qui fait que des fois... Nous, on est en train d'aider des gens. Tu vas parler avec quelqu'un à l'église, puis des fois, tu te poses des questions. Est-ce que la personne, elle n'a pas compris parce que c'est pas sa force de comprendre ces choses-là, puis il faut juste comme patiemment l'enseigner. Puis d'autres fois, tu te dis, je suis pas sûr que cette personne-là est née de nouveau. Je le trouve pas, là, ce moment-là où il y a eu comme « pouf! » Quoi qui s'est passé? Oui? Karine?
J'ai une question qui est... un petit peu relié à une question que mon garçon m'a posée. Quand Jésus il ressuscite, on voit son corps, mais puis il part au début de Actes, on voit qu'il y a relativement un corps qui ressemble à un humain encore. Là. Mais quand on le voit dans l'Apocalypse, c'est complètement différent.
Ça dépend où dans l'Apocalypse. Puis c'est quoi la question?
Ben, la question, c'est comme si son corps s'était transformé. Là. Quand elle est aussi symbolique, le langage qu'il utilise, quand il revient, là, il est plus. En tout cas, pas le langage qu'il utilise en Apocalypse, c'est plus que juste un corps.
Dans Apocalypse 1, est-ce que. Je ne suis pas sûr. Là. Dans Apocalypse 1, OK, il a changé de linge. Il est peut-être plus en gougoune. Oui, c'est ça, mais. Est-ce qu'il a juste pris un bon bain puis il est juste habillé? Peut-être qu'il y a un petit peu de poudre d'éternité sur lui aussi, je ne sais pas. Mais après ça, il y a des images. Il y a des moments où il y a des images qui sont utilisées pour décrire Christ. Là, ce sont des images à ce moment-là, ça c'est clair, parce qu'il y a beaucoup d'images dans l'Apocalypse. C'est la question, là, est-ce qu'on va se reconnaître? Oui, on va se reconnaître. Est-ce qu'on va se reconnaître parce qu'on va se ressembler exactement? Bon, je ne suis pas sûr exactement qu'est-ce qu'il y en a, puis... Il y en a qui sont comme bad lucky, tu sais, ils décèdent à 70 ans, puis c'est là que c'est le fun, c'est d'être décédé à 25 ans, parce que tu vas ressusciter avec un corps de 25 ans. Non. Comprenez? Je ne sais pas, on va laisser ça au Seigneur, ces petites parties-là. OK? C'est bon, on va terminer dans un... Oh! Camille, donne-nous une parole de sagesse, Camille, là, puis on va terminer, au lieu de mes niaiseries.
C'est juste le corps de Jésus ressuscité, on sait qu'il a comme passé au travers des murs là, quand il est arrivé. Fait qu'il il y a une image... qui a été reconnu des disciples, mais c'est pas la même matière. C'est comme il y a quelque chose qui s'est passé là, dans la résurrection. Donc on comprend pas tout, mais on sait qu'il était reconnaissable, mais ils l'ont pas reconnu sur le chemin d'Emmaüs non plus. Ils voulaient pas se faire toucher quand Marie-Madeleine est arrivée. Non, touche-moi pas. Puis quand il est arrivé au milieu des disciples, il a dit à Thomas, viens, avance ta main, touche-moi. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, là, entre le moment où il ne pouvait pas être touché puis au moment où il a été touché. Fait que, en tout cas, ça, on comprend pas tout.
Il y en a assez pour que mon fils continue à rêver aux X-Men puis qu'il se dise, ça va être hot de l'autre bord, on va faire de la téléportation, des choses comme ça.
Oui, de notre côté, lorsque Paul veut réconforter les chrétiens par rapport à ceux qui sont morts, il leur dit que ceux qui sont morts en Christ, je veux dire, sont avec le Seigneur d'une part, mais que nous, on va aller les rejoindre et qu'il laisse sous-entendre, je revois le texte, là, mais qu'on va se reconnaître là-bas. Là.
C'est très clair qu'on va se reconnaître.
On va aller les retrouver.
Est-ce qu'on va se reconnaître parce qu'intuitivement, on va savoir qui on est, puis ou est-ce que c'est parce qu'on va se ressembler exactement? C'est pour ça, tout à l'heure, je disais, lorsque Christ est ressuscité, il n'est pas ressuscité avec un corps destiné au vieillissement et à la mort. D'accord? C'est clair que c'est différent parce qu'effectivement, il semble comme se déplacer. Oups, OK, il est là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Je ne sais pas. Philippe le fait sans résurrection parce que le Saint-Esprit le prend là puis il l'amène là. Tu sais. Fait que c'est mystérieux. D'accord? Vous vous rappelez l'évangéliste qui s'en va parler à l'Éthiopien? Il est transporté par l'Esprit. Tchoup, il est enlevé. Ouf, il apparaît à Bemos, Kirk. Puis il apparaît, puis là, il évangélise. Fait que, puis là, il n'y avait pas de corps ressuscité. Fait que, c'est mystérieux. On ne sait pas exactement ce qu'il va en être. Oui, tout à fait. Tout à fait. On va terminer avec un mot de prière, je pense. On va poser un geste ici. Là. Pardon? Oui. Oui. Est-ce que c'est comme Adam? C'est une bonne question, mais c'est sûr que c'est plus comme Adam que nous. D'accord? Mais il semble avoir d'autres éléments que Camille a relevés ou... oui, il y a quelque chose peut-être de plus encore. C'est clair que lui était éternel. Adam était éternel. C'est un autre upgrade. On va aller dans un mot de prière ensemble. Seigneur Jésus, on attend. On a tellement hâte de voir tout ça, de voir ta gloire, d'être dans ta présence, Seigneur, d'être libéré de nos soucis, de nos craintes, de nos inquiétudes, d'entrer dans ta présence et non pas de regretter d'avoir vécu une vie de souffrance ici sur la terre, mais simplement être tellement émerveillé par toi, Seigneur. Tellement heureux de savourer ta gloire et d'être avec toi, Seigneur. On a vraiment hâte. On veut dire merci, Seigneur Jésus. On parle de ces choses et on affiche souvent plus notre ignorance, Seigneur, que ce qu'on sait, parce que tu es merveilleux. Parce que c'est extraordinaire ce que tu as fait. Et comme je le disais, Seigneur, au début dans ma prière, ce qui m'émerveille, ce n'est pas tant ton amour, c'est le fait que tu m'aies choisi, Seigneur. C'est le fait que tu aies daigné faire ça pour moi, Seigneur, afin que je puisse entrer dans ta gloire et célébrer tes louanges, Seigneur. Sois béni. Accorde-nous de la grâce, Seigneur, de marcher d'une manière digne de ce que tu as fait pour nous. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans cette réalité. Aide-nous, Père, à accueillir les épreuves que tu places devant nous comme des occasions, justement, de connaître Christ et la puissance de sa résurrection comme Paul le désirait. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. La semaine prochaine, le Saint-Esprit.